Midi passé de 6 minutes sur les ondes de Radio MDM, et c'est à présent à travers le prisme abolitionniste que nous allons interroger la prison pour ce sixième numéro de Margot Guette. On va interroger la prison et le système pénal plus largement. Pour ce faire, la sociologue Gwenola Ricordo a accepté de répondre à nos questions.
Bonjour Gwenola Ricordo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors nous souhaitons, dans cette émission, questionner la prison, le modèle carcéral et les alternatives que des militants et militantes abolitionnistes imaginent, sont en train d'imaginer depuis les prémices de ce courant de pensée né dans les années 70 aux États-Unis et en Europe. Et c'est au titre de professeur associé en justice criminelle à la California State University Chico et en tant qu'experte militante et autrice sur des questions relatives à l'abolitionnisme pénal que nous vous avons contacté. Alors pour éviter peut-être de vous demander une nouvelle fois d'expliquer en quoi consiste l'abolitionnisme pénal, je vais me risquer à le résumer en quelques mots. C'est l'idée d'abolir le système pénal représenté par trois institutions, à savoir la justice, la police et la prison. Est-ce que ça vous va ?
Ah oui, ça me va parfaitement.
Et donc, pour développer malgré tout un petit peu plus longuement sur cette question, je vous ai entendu dans une interview expliquer que l'abolitionnisme pénal constitue pour vous une invitation à politiser nos vies et drames personnels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par là ?
Sans doute que la manière dont on peut tirer le fil de l'expérience personnelle d'avoir été soi-même victime, soi-même auteur ou autrice de préjudice à l'égard d'une autre personne. Et je pense qu'on peut dire que nous sommes tous et toutes un jour soit victimes, soit auteurs, autrices de dommages, de torts faits à d'autres personnes. Cette manière de partir de nos expériences personnelles, ça permet sans doute une réflexion sensible sur ce qui est fait à certaines personnes qui sont étiquetées comme étant délinquants, criminels. Donc à certaines personnes qui vont être la cible du système pénal. Et lorsque on a cette vision qui sort de l'étiquetage par le système pénal de certaines personnes, et lorsque l'on se... On sort des catégories que sont les crimes et les délits, et que au contraire on réfléchit en termes de torts, de préjudices subis par les individus et de quelle manière on pourrait les réparer, de quelle manière on pourrait transformer la société pour que ces préjudices et ces torts ne soient plus commis. Cette expérience-là et cette ouverture d'esprit à toutes les formes de préjudice, à mon sens, porte une critique radicale du système pénal.
Dans un article publié dans le numéro 189 du mensuel CQFD, vous expliquez que le meurtre de George Floyd, tué, je le rappelle, par Derek Chauvin, un policier blanc, a renforcé les protestations contre la police, avec notamment la demande de defund, de couper les vivres à la police et de l'abolir aussi. Ce regain malheureux d'intérêt pour le sujet tend à souligner les oppositions qui existent entre les abolitionnistes d'un côté et les réformistes de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus ?
Alors, il y a une tension qui existe de longue date, une tension qui est créée par les mouvements abolitionnistes avec les courants réformistes, que ce soit des courants réformistes de la police, du système pénal, de la prison. Et c'est vrai que on a vu à l'occasion de cette montée en puissance des mobilisations contre les violences policières, cette tension s'accroître. Alors, il faut mettre des guillemets attention parce que il y a plusieurs façons tactiquement de penser peut-être une articulation entre des mouvements critiques et des mouvements abolitionnistes. Mais toujours est-il que l'on peut dire que il y a d'un côté, et c'est les courants majoritaires qui s'expriment, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou en Europe, de personnes et de mouvements qui souhaitent réformer la police, qui souhaite donc lutter contre les violences policières, et là l'expression est importante, hein, résoudre les violences policières, les réduire ou même les faire disparaître, c'est bien différent que de vouloir abolir la police, vouloir une meilleure police, une police qui tue moins ou qui ne tue pas, une police qui soit moins raciste ou même une police qui ne soit pas raciste, etc. Tout ce discours réformiste est évidemment bien différent du discours abolitionniste, et on peut tracer une ligne en disant que pour les abolitionnistes, que ce soit la police ou la prison, il ne s'agit pas de souligner ce qui serait des dysfonctionnements. Pour nous abolitionnistes, on ne dit pas que un crime raciste par des policiers, c'est un dysfonctionnement de la police. Au contraire, on pense que la police, tout comme la prison, etc., sont des institutions qui fonctionnent parfaitement, qu'elles remplissent leur rôle dans un système social qui est celui du capitalisme, du racisme systémique, et que donc de vouloir réformer, de vouloir une meilleure police ou une meilleure prison, tout cela en fait s'inscrit également dans les discours de l'État, puisque jamais vous verrez un ministre de l'Intérieur ou un représentant syndical policier dire qu'ils sont en faveur des violences policières. Eux-mêmes sont porteurs de ce discours réformiste, d'une institution dont il faut renforcer la légitimité en la montrant plus acceptable.
Alors ce système, tel qu'on le connaît aujourd'hui, le système pénal, il est finalement très jeune. Est-ce que vous savez par quel mécanisme, est-ce que vous avez identifié un facteur qui pourrait expliquer par quel biais ce système-là a été installé ?
Alors là, c'est une question qui dépasse à la fois mes travaux et mon domaine d'expertise. Moi, je ne suis pas historienne de l'institution pénale. Après, ce que je peux en dire, c'est que ce que les analyses que portent les abolitionnistes, en tout cas beaucoup de courants abolitionnistes, c'est de mettre en lumière la façon dont le système pénal, alors que ce soit la prison, la police, etc., sont des institutions qui sont bien au service de rapports de domination qui structurent la société actuelle, et que du coup on ne peut pas démanteler ces institutions sans une approche révolutionnaire. En tout cas, c'est la perspective abolitionniste qui est la mienne.
Pour revenir à cette forme de domination que pérennise ce système, vous entendez également dans une autre interview où je vous ai lu, je ne sais plus, expliquer que c'était aussi un produit de la colonisation européenne qui a répandu ce modèle à travers la planète. Est-ce que vous avez une idée de à quel point c'est uniformisé ? Et vous qui êtes française et qui vivez aux États-Unis depuis quelque temps maintenant, est-ce que vous notez des différences entre les deux pays ?
Alors oui, il y a des différences entre, on peut dire, la police, la prison, le système judiciaire aux États-Unis et notamment si on le compare à d'autres pays occidentaux. Il y a des différences en termes quantitatifs, il y a beaucoup plus de meurtres policiers, de crimes d'État, il y a beaucoup plus de personnes qui sont criminalisées, il y a des prisons dont les conditions de vie pour les personnes qui sont détenues sont particulièrement dures si on les compare à des standards européens. Après, faut se méfier de ce type de comparaison parce que lorsqu'on regarde la nature et la fonction du système pénal ou de la police, là, les différences s'atténuent. Alors, évidemment, il y a un petit peu des nuances sur, par exemple, les forces de police qui ne sont pas centralisées comme cela l'est en France. Mais après, vous posez la question de la colonisation, et elle est effectivement extrêmement importante lorsque on porte une perspective abolitionniste. Elle a été profondément pensée, réfléchie, elle agite profondément les mobilisations abolitionnistes en Amérique du Nord, et donc je dis là aux États-Unis et aussi au Canada, parce que lorsque on regarde l'histoire de la colonisation en Amérique du Nord, on voit très clairement le rôle qu'a eu l'institution pénale pour imposer l'ordre colonial. enfin l'Amérique du Nord, il s'agit de colonies de peuplement. Hein. Et donc, lorsque aujourd'hui, on regarde en fait qui sont les personnes incarcérées, il y a évidemment, et c'est largement connu, la surreprésentation des Africains américains, d'autres minorités ethniques comme les Latinos, et puis aussi une surreprésentation des populations natives, des Amérindiens. Et lorsque on porte une perspective abolitionniste, cette réflexion anticoloniale, elle est forcément partie prenante de ces réflexions, et elle permet de mettre aussi le doigt sur les processus historiques dans lesquels des pays, évidemment, comme la France, ont été impliqués et sont encore impliqués. Cause she worked hard for it, but blacked out so they won't see her in it. Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, bought all of them. Dressed up and she just was riding. Bust down, baby, ain't tired of this. Run it, run it now. You wanna head out, the flight leaves at noon. Wanna buy Chanel, they just dropped them two bags. They want another, now you're asking for too much. Order what you like, don't have to pay about the parties at midnight. She wants to answer that, feels so bad to feel nice. But she gon' handle that, it comes with a small price. Yeah, I give, you take. Been keeping track like I'm a train. Even with drip, I'm feeling drained. It's getting long hair like braids, two sides. Either really rude or too nice. So before it goes left, you better move right. Top down, cause she worked hard for it. But blacked out so they won't see her in it. Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, bought all of them. Up and she just was riding. Bust down, baby, ain't tired of this.
Gwenola Ricordo se revendique également féministe dans son dernier essai « Pour elle toute », paru en 2019 aux éditions Luxe. Elle théorise l'aspect féministe du mouvement abolitionniste pénal, ce qui peut paraître à première vue surprenant, voire contradictoire lorsque l'on écoute les discours des féministes dominants. Attention, chers auditeurs, nous abordons la question des violences faites aux femmes. Cette séquence peut raviver certains traumatismes.
Dans ce livre et dans mes réflexions, je me fais l'écho d'un ensemble à la fois de mobilisations et de réflexions qui ont aussi été faites ailleurs, qui ont été portées aussi dans d'autres espaces politiques. Mais cet ensemble de réflexions porte la critique de ce féminisme qu'on peut appeler mainstream ou dominant, qui, en gros, depuis les années 70, appelle à toujours plus de criminalisation au nom de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, ce courant que la sociologue états-unienne Elizabeth Bernstein a qualifié de féminisme carcéral, on peut parler aussi de féminisme punitif. Et il s'agit, pour dire les choses un petit peu rapidement, de questionner ce « ça va de soi » qu'il y aurait un lien entre criminalisation des hommes auteurs de violences faites aux femmes et une diminution de ces violences. Est-ce que cela fonctionne d'envoyer un homme qui a commis un viol en prison ? Est-ce que cela fait baisser le niveau des violences ? Est-ce que cela permet de prévenir les violences ? Est-ce que cela rend la société plus sécure pour les femmes. Et lorsque on interroge l'efficacité du recours à la peine, et notamment à la peine d'incarcération, on voit qu'il y a beaucoup de raisons pour dire que, en fait, c'est pas une solution qui fonctionne. Et donc, remettre en cause cette solution qui est proposée comme étant une évidence. Il y a vraiment, depuis des dizaines d'années maintenant, cette idée que c'est une évidence qu'il faut recourir à la punition et en particulier à la peine d'incarcération. Hein. Et donc, il y a toujours cet appel à davantage de criminalisation, à davantage à l'extension du recours au pénal. Cette remise en cause du discours dominant du féminisme, elle part de cette critique de l'efficacité du système pénal pour privilégier d'abord les besoins des victimes. Les besoins des victimes incluent évidemment la reconnaissance du préjudice qu'elles ont subi. Et la peine d'incarcération permet une forme de reconnaissance du préjudice subi. Mais évidemment, les besoins des victimes vont bien au-delà de cette seule reconnaissance du préjudice subi. Et donc, les féministes abolitionnistes du système pénal portent le projet politique à la fois de l'abolition du système pénal et de réfléchir à des solutions qui font réellement baisser le niveau des violences faites aux femmes, hein, de quelle manière on abolit le patriarcat et de quelle manière on place au centre des réflexions les besoins des victimes. Je ne pense pas que l'abolitionnisme soit forcément une solution à titre individuel, dans le sens où, comme toute lutte politique, ça peut évidemment apporter du réconfort, donner du sens à ce que l'on expérimente, etc. D'un point de vue purement pragmatique, moi je dis toujours que les victimes doivent se défendre et faire ce dont elles ont besoin dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, hein, selon les ressources dont elles disposent. Porter plainte est un luxe que certaines ne peuvent pas s'offrir, hein, selon que le statut que l'on a, qu'on soit citoyenne ou qu'on ne le soit pas, selon la position de l'agresseur, etc. Tout le monde ne peut pas porter plainte. Parfois, pour certaines victimes, porter plainte, c'est quelque chose qui est important pour changer les dynamiques qu'il peut y avoir autour d'elles, hein, des dynamiques de solidarité, notamment dans les situations de violence conjugale où il y a une forte emprise et que du coup le dépôt de plainte peut être un marqueur sur un parcours individuel. Donc il s'agit pas, à mon sens, que les abolitionnistes donnent un code de conduite aux victimes. Il s'agit plutôt de donner des ressources et de réfléchir collectivement aux ressources que l'on pourrait développer pour ne pas avoir à recourir au système pénal. Donc, il ne s'agit pas de faire une nouvelle injonction aux victimes. Les victimes subissent déjà beaucoup, beaucoup d'injonctions. Mais après, ce qui me semble, à mon niveau, important de dire aux victimes, c'est de réfléchir à quels sont leurs besoins. Et j'évoquais tout à l'heure le besoin de reconnaissance, le besoin de reconnaissance du préjudice subi, en sachant bien que la justice ne va pas forcément répondre à ce besoin de reconnaissance. Hein, on le sait bien, hein. Cette reconnaissance du préjudice subi n'intervient pas toujours à l'issue d'un procès pour violence, violence à caractère sexuel, violence conjugale, etc. Mais il y a d'autres besoins, il y a le besoin de sécurité. Sécurité qui peut être avec une peine d'incarcération, une sécurité à court terme, avec la mise à l'écart d'un auteur. Mais lorsqu'on réfléchit à notre besoin de sécurité, on voit aussi que ça va souvent bien au-delà d'un seul auteur. Hein. C'est de quelle manière on va pouvoir se sentir à nouveau en sécurité lorsqu'on a été victime de certains faits. Et puis, il y a le besoin souvent de donner du sens au préjudice qui a été commis. Ce besoin-là, il se construit souvent collectivement. Souvent aussi avec l'échange avec d'autres victimes. Et du coup, c'est plutôt à ce type de réflexion, aux besoins et à quelle manière le système pénal, les actions que l'on engage vont permettre ou pas de répondre à ces besoins. Hein, et donc de pas trop placer d'attente dans le système pénal, même si j'ai bien conscience que pour beaucoup de victimes, en particulier celles qui sont les plus isolées socialement, le système pénal aujourd'hui peut sembler être la seule réponse.
Pour sortir justement de ce système pénal, vous recommandez entre autres la mise en place d'une justice transformative ou réparative, restaurative, je ne sais pas exactement quel est le terme que vous privilégiez, pour remettre au centre un petit peu aussi le lien social.
Alors, je le reformulerai un petit peu différemment. Je dirais que certains abolitionnistes développent donc ce qu'on appelle la justice transformative comme une façon de construire des espaces pour les victimes et pour les auteurs en dehors du système pénal, avec cette idée de transformer aussi les relations sociales de manière à s'émanciper du système pénal. C'est une des voies explorées par les abolitionnistes. À titre personnel, je pense que c'est un travail important qui permet de réfléchir le futur, de réfléchir le futur de l'émancipation. Mais c'est, à mon sens, pas l'unique manière de penser l'abolition du système pénal et sans doute pas d'un point de vue stratégique, mais là, ça n'engage que moi, d'envisager l'abolition du système pénal. Hein, c'est une question de stratégie. Hein. Est-ce que on renverse un système ou est-ce qu'on crée des espaces qui s'émancipent de ce système? Toujours est-il que le courant de la justice transformative est un courant important parmi les abolitionnistes et les réflexions abolitionnistes, et qu'il propose un modèle différent de celui de la justice pénale, et donc notamment de sortir de l'approche punitive qui est essentiellement celle du système pénal, hein, avec cette idée d'une responsabilité individuelle, responsabilité individuelle de l'auteur, et donc d'un acte qui appelle une punition, une sanction. Hein, et donc la justice transformative part de l'idée qu'il existe une responsabilité communautaire et que, bien sûr, les auteurs sont responsables des faits, des préjudices qu'ils ont commis, mais que, en fait, ces faits s'inscrivent évidemment dans des rapports sociaux, et que si un auteur peut s'engager à évoluer à titre individuel, si un auteur peut s'engager dans des formes de réparation ou de restauration de ce qui a été fait, il y a un certain nombre de préjudices qui ne peuvent pas être réparés. Hein, et ça, c'est important de le dire, hein, d'aller à l'encontre de cette illusion que tout pourrait être réparé. Non, il y a des préjudices qui sont évidemment d'une ampleur telle que certains aspects ne peuvent pas en être réparés. Mais une fois que l'on a dit ça, hein, les personnes qui s'engagent dans la justice transformative portent l'idée qu'il s'agit de transformer les communautés afin de rendre impossible que certains faits se reproduisent, et de réfléchir collectivement comment guérir, comment réparer autant que faire se peut le préjudice qui a été subi, comment répondre aux besoins des victimes, mais aussi comment répondre aux besoins des auteurs, parce que c'est quelque chose que l'on sait bien, c'est que les auteurs sont aussi souvent, par ailleurs, des victimes, hein, alors des victimes à différents niveaux, mais donc sortir de cette binarité: d'un côté, il y aurait des auteurs, et de l'autre côté, des victimes.
Est-ce que on pourrait, pour conclure, résumer, même si je sais que c'est une pensée inachevée, ce courant abolitionniste?
Oui, c'est vrai que cette expression d'un abolitionnisme par nature inachevé, c'est une expression qui vient de Thomas Matthiessen, un des pères, entre guillemets, fondateurs de l'abolitionnisme. Alors, à mon sens, s'il fallait résumer ce courant de pensée, ce serait de dire justice sociale plutôt que justice pénale. Ce terme de justice sociale étant suffisamment vaste pour nous inviter à penser l'émancipation de diverses manières.
Et pour mieux comprendre ce concept de justice sociale, je vous invite, très chers auditeurs, à consulter les travaux de John Rawls, R-A-W-L-S, qu'il a théorisé au XXe siècle, il explique qu'elle repose sur deux principes, celui de liberté et d'égalité. Chaque personne a un droit égal aux libertés les plus étendues compatibles avec la liberté des autres, et celui de différence. Les inégalités sociales et économiques doivent être agencées de sorte qu'elles sont à la fois au plus grand bénéfice des moins favorisés et que les positions soient ouvertes à tous dans des conditions d'égalité des chances.